Et c'est maintenant l'heure de Making Off, les coulisses des reportages de la rédaction de France Inter, direction Salisbury au Royaume-Uni pour rejoindre Sébastien Sabiron. Bonjour.
Bonjour.
Sébastien, on vous a envoyé là-bas à propos de cette affaire d'empoisonnement d'un couple mort à cause d'une substance neurotoxique. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi que l'on vous a envoyé. Une affaire qui rappelle furieusement celle de Sergueï Skripal, cet ancien espion russe retrouvé inconscient, lui aussi victime de cette substance, le Novichok. Alors pourquoi cette affaire, elle nous intéresse autant? Pourquoi est-elle aussi fascinante, Sébastien?
Bien, elle est fascinante puisqu'on se retrouve plongé au cœur d'un roman d'espionnage. Imaginez un peu le décor ici. Nous sommes en plein cœur de la campagne anglaise. C'est très vert, très vallonné. Deux petites villes, très jolies, très calmes. Salisbury et Amesbury, des villes sans histoire. En temps normal, ici, la seule animation, c'est le site archéologique de Stonehenge à proximité. Et puis, du jour au lendemain, on apprend qu'un agent double, un ex-espion russe, a fait l'objet d'une tentative d'empoisonnement. Et puis, quatre mois plus tard, deux autres personnes sont victimes du même poison. Alors forcément, ça suscite énormément de questions. Est-ce qu'il s'agit de victimes collatérales? Est-ce qu'il s'agit d'espions eux-mêmes? Pourquoi? Comment ont-elles manipulé ce poison? Ont-elles un lien avec les agresseurs de la première affaire, l'affaire Skripal? Énormément de questions. Et puis, l'autre intérêt, bien sûr, c'est de découvrir ici comment le public réagit, comment les habitants de ces bourgades tranquilles réagissent après cette deuxième affaire, sachant que la première a fait énormément de bruit. Les rues de Salisbury ont été décontaminés pendant plusieurs mois. Tout le monde se disait, bon, écoutez, maintenant l'affaire est finie. Et puis, quatre mois plus tard, cela se reproduit. Et puis, le couple visé sont des personnes a priori normales. Et ici, les gens dans la rue nous disent, on pensait que c'était fini. Des personnes a priori lambda sont touchées. Qu'en est-il de nous? Donc, il y a cette espèce de soupçon, d'inquiétude un peu larvée par rapport à cet agent, ce poison, cet agent énervant qui pourrait être dans la nature quelque part. Donc c'est intéressant pour nous journalistes de découvrir comment se passent les choses ici.
Et Sébastien, on est obligé de faire le lien entre l'affaire Skripal et cette dernière affaire, justement à cause du Novichok, et une substance plutôt rare, on la trouve pas normalement au coin de la rue, c'est ça
Oui, bien sûr, ouais, c'est un poison élaboré par les services secrets russes dans les années 70, et puis bien sûr on est obligé de faire le lien. D'ailleurs, les autorités elles-mêmes l'ont fait assez rapidement en analysant la substance qui a contaminé ce nouveau couple et en annonçant effectivement qu'il s'agit aussi de Novichok. Alors bien sûr, les autorités restent prudentes. Le lien entre les deux affaires existe fondamentalement, mais il faut ensuite découvrir si ce poison provient du même lot que celui qui a visé le couple Skripal. Il faut bien sûr savoir s'il en reste effectivement des traces dans la ville quelque part, puisque l'enquête semble s'orienter vers une thèse accidentelle. Ces personnes auraient été touchées par ce poison visiblement en manipulant un contenant qui a servi à la tentative d'empoisonnement des Skripal. Donc l'enquête fait forcément le lien entre les deux affaires. Et ici, la police est forcément, vous l'imaginez, très présente. Plusieurs lieux du centre-ville ont été bouclés. En gros, tous ceux que le couple a fréquentés avant son hospitalisation.
Alors Sébastien, je vous propose maintenant que l'on écoute l'un des reportages que vous avez tourné à Amesbury, où vivait le couple victime du Novichok. Ce reportage, il a été diffusé vendredi dans la matinale.
Marc habite juste en face de la maison du couple empoisonné, un lotissement de briques rouges bouclé par la police.
Je me sens anxieux, mais j'essaie de ne pas trop m'inquiéter. J'étais à Salisbury la nuit où ça s'est produit la première fois, et la seconde fois, ça se passe sur le pas de ma porte.
Dans les rues d'Amesbury, un seul sujet de conversation, le poison. Saina tient le salon de coiffure.
Tout le monde en parle, mais personne n'a l'air de comprendre ce qu'il se passe. Certains sont venus voir si nous étions fermés. La pharmacie d'en face est fermée. Je crois que c'est à cause de ça.
Une pharmacie fermée comme tous les lieux où le couple s'est rendu avant son hospitalisation, dont l'immense parc de Salisbury où Holly avait ses habitudes.
Pour être honnête, j'ai vraiment été choquée que cela se reproduise après la première fois. Ils ont tout décontaminé, mais s'il y a encore des traces de poison, on peut se demander s'ils ont assez bien nettoyé.
Pour l'agence de santé publique, le risque de nouvelles contaminations est faible. Elle conseille néanmoins à la population de ne pas ramasser d'objets inconnus ou dangereux. Amesbury, Sébastien Sabiron, France Inter.
Voilà votre reportage, Sébastien. Dites-nous, comment on travaille sur ce genre d'affaires? Comment on va à la pêche aux informations et aux témoins?
Bien déjà, on s'appuie forcément sur la presse britannique pour identifier les lieux qu'on ne connaît pas, bien sûr, le domicile des victimes, les lieux que les victimes ont visités. Donc c'est un peu un jeu de piste en partant de la presse. Après, pour ce qui est de rencontrer des témoins, eh bien c'est assez simple. Hein, on va un petit peu à la pêche aux témoignages dans la rue, comme je vous le disais, en se rendant devant les différents lieux de l'affaire et en cherchant par un biais puis un autre à rencontrer des gens qui de près ou de loin peuvent être éventuellement connectés à cette affaire ou à ces victimes.
Et Sébastien, comment on travaille avec des autorités étrangères, avec les autorités britanniques dans ce cas précis ?
Eh ben assez simplement, hein, on prend contact avec eux, on leur demande de nous ajouter à leur mailing list, on suit les comptes Twitter de la police britannique, la Metropolitan Police, la police locale aussi. Bon, il faut savoir que les policiers anglais ne sont pas très disert, ils préfèrent s'exprimer via des conférences de presse ou des communiqués de presse, donc il faut rester à l'écoute et se tenir prêt effectivement en cas de prise de parole des autorités.
Ils parlent moins les policiers britanniques que les policiers français ?
C'est-à-dire que c'est pas tout à fait la même façon de travailler. Les policiers britanniques sont très courtois. Vous pouvez vous approcher de l'un d'eux dans la rue, il vous fera de grands sourires, mais sans vous donner une seule information. Voilà, c'est une manière assez franche de travailler. Il y a des officiels, il y a des porte-paroles. On ne peut pas, comme on dit, gratter des informations auprès d'un fonctionnaire. En tout cas, quand on est journaliste étranger, hein, bien sûr, puisqu'on n'a pas le même rapport qu'on peut avoir avec la police française. Mais voilà, il suffit de rester dans les clou et de, comme je vous le disais, rester à l'écoute et d'une éventuelle prise de parole officielle des autorités.
Making of à Salisbury au Royaume-Uni avec Sébastien Sabiron et Benjamin Chauvin aux moyens techniques. Nous les avons joints un peu plus tôt. Merci à eux deux.